VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. L'affaire Guillaume Soro en France, levée du mandat d'amener de la justice française contre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La juge d'instruction parisienne Sabine Kéris a reconnu l'immunité et le statut diplomatique du leader politique ivoirien. Cette annulation est intervenue après une protestation officielle du gouvernement de Côte d'Ivoire ce mardi matin. Eric Manirakiza.
Le mandat d'amener avait provoqué un tollé à Abidjan. Charles Kofi Dibi, ministre des Affaires étrangères, avait, à travers l'ambassadeur de France, signifié hier matin à son homologue Laurent Fabius que l'attitude de la justice française violait complètement les accords de coopération, la Convention de Vienne et les traités pour les immunités. Le chef de la diplomatie ivoirienne avait donc exigé le respect de l'immunité absolue dont jouit Guillaume Soro en mission à Paris pour la COP21. La défense de M. Soro a présenté à la juge les documents soutenant son séjour à Paris. Sabine Kéris a donc revu sa copie, mais l'affaire restait pendante. Et voulait interroger M. Soro pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain, une plainte de Michel Gbagbo, fils de l'ancien président Laurent Gbagbo, déposée en 2012. La bataille judiciaire ne fait que commencer, car Guillaume Soro a décidé dans les prochains jours d'attaquer son plaignant devant la même justice pour dénonciation calomnieuse.
Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, a mis en place mardi une commission de réforme de l'armée pour, entre autres, interdire définitivement l'implication du militaire dans la vie politique. Des précisions avec Michel Joseph.
Pour Michel Kafando, cette commission d'une trentaine d'officiers supérieurs et d'officiers généraux devra dans un délai de 6 mois présenter des propositions réalistes pour la construction d'une armée républicaine. Le président intérimaire a souligné que durant les 27 ans de règne du régime précédent, les forces armées nationales ont continué de perdre les valeurs qui fondent une armée. Depuis son indépendance, le Burkina Faso a connu une demi-douzaine de coups d'État. 6 de ses 8 présidents sont des militaires, au moins 4 mutineries ont éclaté depuis 1999. Cette armée de quelque 12 000 hommes a été mise à rude épreuve durant l'insurrection populaire qui a chassé l'ex-président Blaise Compaoré et surtout après le putsch manqué du 17 septembre 2015. Une quarantaine de militaires ont été arrêtés, dont le général Gilbert Diendéré. Rochemark Christian Kabore, le président élu, aura du pain sur la planche pour ce qui est de ramener définitivement les soldats burkinabés dans les casernes.
Mali, sévère mise en garde du gouvernement malien aux passeurs des migrants maliens. Le ministre des Maliens de l'Extérieur dénonce les vendeurs de la mort. On écoute le docteur Abdramane Sila.
Aucun gouvernement n'a intérêt à laisser ses enfants aller mourir dans l'océan. Ce serait irresponsable, surtout que ce sont des innocents qui partent. Et les réseaux mafieux qui sont employés pour ce faire ne disent pas les vérités aux jeunes. Ils leur enlèvent leur argent et ils les mettent dans les embarcations de fortune pour qu'ils aillent mourir dans les eaux. C'est un acte irrépréhensible et je pense que le gouvernement de la République du Mali n'aménagera aucun effort pour traquer ces passeurs-là, les arrêter et les emprisonner parce qu'ils sont assimilables à tous ces terroristes qui tuent innocemment, à tous ces bandits de grand chemin qui extorquent des richesses, qui volent une arnaque vraiment des jeunes et leur enlever vraiment le peu d'argent que leurs parents leur envoient. Donc c'est une question de responsabilité et non une question d'enfreigner vraiment à la liberté de circulation.
Le docteur Abdramane Sila, ministre des Maliens de l'Extérieur, au micro de Modibo Dembélé.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les Rwandais se prononceront le 18 décembre par référendum sur une révision constitutionnelle qui pourrait permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017 et de diriger potentiellement le pays jusqu'en 2034. Le Conseil des ministres au Rwanda a fixé au 18 décembre ce référendum devant entériner la révision constitutionnelle adoptée le 17 novembre par le Parlement. Les Rwandais se trouvant à l'étranger, dont quelque 28 500 sont inscrits sur les listes électorales, voteront la veille, selon un communiqué officiel reçu ce mercredi. En RDC, la préparation du dialogue national envisagé par le président Joseph Kabila dans l'impasse, après le passage aujourd'hui d'une date butoir non respectée. Dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi, le directeur de cabinet du chef de l'État congolais annonce que ce comité est encore en voie de constitution et lisse a mis sur pied à la médiation entre les parties menée par l'envoyé spécial de l'ONU pour les Grands Lacs, Saïd Djinnit. Les Nations Unies, par ailleurs, s'inquiètent d'un rétrécissement de l'espace démocratique en RDC à l'approche d'élections incertaines. Dans un rapport publié hier, l'ONU exhorte les autorités de Kinshasa à protéger les droits civils et politiques dans le pays. Les détails avec Eddy Issango.
Selon la mission de l'ONU au Congo et les hauts commissariats des Nations Unies pour les droits de l'homme qui ont publié les rapports hier, des professionnels des médias, des membres de la société civile et des opposants politiques ont été ciblés depuis le début de l'année par des menaces, des arrestations et des détentions arbitraires. L'ONU se préoccupe d'une répression inquiétante en RDC. Elle a documenté 143 violations des droits de l'homme en lien avec les processus électoraux au cours des trois premiers trimestres de 2015. Durant la période, au moins 649 personnes ont été arrêtées et détenues arbitrairement, indiquent les rapports. Dans une lettre, le ministre congolais de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, qualifie ces accusations d'acharnement teinté de mauvaise foi et dénonce les manques d'objectivité et des précisions d'un rapport qui, selon lui, ne trouve rien à reprocher aux opposants. Ces accusations tombent alors que l'ONG Lucha, Lutte pour les changements, dénonce les intimidations du maire de Goma qui l'enjoint de cesser toute activité de nature à perturber l'ordre public sous peine des sanctions.
Au Cameroun, Félix Syriac Ebolebola, l'ancien président du syndicat national des journalistes et deux de ses confrères vont être jugés pour atteinte à la sûreté de l'État. Une notification en ce sens leur a été adressée par un juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. Les journalistes impliqués crient leur innocence. On écoute Félix Syriac Ebolebola.
Nous clamons notre innocence. Nous n'avons rien à voir avec quoi que ce soit concernant la sécurité de l'État. Nous avons l'impression d'être en face d'une justice sur commande, d'une justice par embuscade, parce que nous le disons haut et fort, jamais depuis le début, on ne nous a montré un seul indice selon lequel nous aurions été associés à quoi que ce soit portant sur la sécurité de l'État camerounais.
Félix Syriac Ebolebola, ancien président du syndicat national des journalistes du Cameroun. Il a été joint à Yaoundé. Au Tchad, le Front social se réveille avec des grèves multisectorielles. Le personnel de l'hôpital de la mère et de l'enfant de N'Djamena revendique plusieurs mois d'arriérés, de primes de garde et d'intéressement. Et un regroupement de 9 syndicats de l'enseignement a appelé ses membres à déposer la grève jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Kim Bramadje Jim Tabay est le porte-parole de ce regroupement.
C'est comme si le gouvernement n'accorde pas d'importance à la chose de l'éducation nationale. Le ministre de la fonction publique, en recevant ce préavis de grève, ça devrait être une urgence pour lui. Chercher à rencontrer les syndicats afin qu'ensemble nous puissions discuter qu'est-ce qui fait que le salaire traîne jusqu'à là. Parce que c'est une question de vie. Vous savez, les enseignants, en dehors de leur salaire, que nous appelons salaire de misère parce que ça ne le permet pas de vivre normalement. Nous avons aussi nos enfants qui sont là, mais c'est une situation où nous ne pouvons rien. Tant que le dernier ancien n'a pas perçu son salaire, nous n'allons pas lever la grève.
Kim Bramadje Jim Tabay, porte-parole des enseignants tchadiens.
VOA Afrique en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté hier en début de soirée un projet de loi renforçant le contrôle des voyageurs arrivant dans le pays et exigeant un visa pour tous ceux qui ont visité l'Irak et la Syrie durant les 5 dernières années, chez Romain Dorsil.
Dans la foulée des attentats du 13 novembre à Paris, des voix se sont levées pour réclamer un réexamen du Visa Waiver Program, un programme d'exemption de visa dont bénéficient 38 pays. Par exemple, deux pays d'où viennent la plupart des terroristes qui ont attaqué la capitale française le mois dernier, la France et la Belgique, font partie de ce programme. Il aurait été donc facile à un visiteur venant de ces pays de fouler le sol américain. Le vote de ce 8 décembre prévoit l'obtention d'un visa d'entrée pour les citoyens d'Irak, de Syrie et d'autres pays abritant des groupes extrémistes, ainsi que toute personne ayant visité ces pays durant les 5 ans précédant la demande de visa. Avec le soutien de la Maison-Blanche, la proposition a été adoptée par 407 voix contre 19. Elle fera l'objet d'un vote au Sénat à une date ultérieure. Un autre programme ayant attiré l'attention des membres du Congrès et du département de la sécurité intérieure après la récente attaque terroriste de San Bernardino en Californie, c'est le visa K, facilitant l'admission plus ou moins rapide aux États-Unis d'une personne fiancée à un citoyen américain en vue de leur mariage dans un délai de 90 jours.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.